Bienvenue sur Bouge ton bazar, le podcast qui déblaye tout ton brouillard intérieur.
Une émission présentée et animée par Stella. Donc Stella, ça vient du latin et ça se traduit par étoile. Séduisante dans l'âme, elle sait charmer son auditoire sans avoir besoin d'en rajouter. Comment vous présenter son parcours en faisant simple? Bientôt 40 ans, elle a eu un long parcours d'études ainsi que diverses expériences professionnelles. Informatique, juridique, comptabilité, consulting administratif et formation, traduction, mise en conformité, normes ISO, projet de création d'entreprise. Stella, c'est avant tout une jeune femme résiliente qui travaille à la guérison de lourds traumatismes, notamment de violences familiales, et qui, avec son sourire, son empathie et sa bienveillance, veut montrer la voie de l'espérance à tous les gens qui souffrent. On a également Bénédicte, ça veut dire bénie de Dieu. Autant éprouvée que aimée, elle a su rebondir à chaque épreuve comme une boxeuse amoureuse de la vie. Avec une expérience d'une dizaine d'années dans l'ensemble de la chaîne de production de l'industrie cinématographique ainsi qu'une dizaine d'années dans l'industrie graphique, cette double casquette fait de moi un profil atypique et pluridisciplinaire puisque je suis aussi pilote de tuk-tuk à Marseille. J'ai commencé le stand-up il y a 4 ans et depuis septembre vous me trouverez au théâtre de l'Ardu. Faire rire plutôt que pleurer, c'est devenu un art de vivre qui se pratique au quotidien.
Alors, présentons un peu le concept. Si le bazar est à l'origine un marché ou un magasin où l'on vend toutes sortes d'objets et d'ustensiles utiles, le bazar mental, lui, est un fouillis dont on aimerait bien pouvoir se passer. C'est un peu comme ça qu'a germé l'idée du titre de ce podcast, ouvrir des discussions et des réflexions sur le brouillard mental lié au trauma, partager des expériences de parcours personnel et communier tous ensemble vers la résilience et la guérison. Quel beau programme! Voilà un programme qui va en secouer plus d'un, parce qu'on est tous dans le même bateau, celui des héritiers de blessures psychologiques, qui que fût nos bourreaux, quel que fût l'événement qui a changé le cours de nos vies. Alors c'est parti, tous ensemble contre la fatalité! Parce qu'il n'y a pas de petits traumas, recouvrons peu à peu d'or ces fêlures qui sublimeront notre être, tel un kintsugi vivant. Nos blessures deviendront nos forces, nous rendant alors plus résistants, plus beaux et plus précieux qu'avant le choc.
Alors, pour ce deuxième épisode, on accueille Ludovic Collet, un professionnel du mental et de la performance sportive et créative. Alors, quand j'ai découvert Ludovic, je me suis dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui cet individu étrange? Et après notre premier échange, j'ai dit, ah ok, d'accord, je vais prendre le temps de creuser parce que ça a l'air riche et hyper intéressant. Il a inventé son métier, voilà, tout simplement. Il se décrit comme un gymnopoète, une pratique de la gymnastique mentale par les mots. Il est aussi coach mental Ikigai et donc s'appuie principalement sur cet outil très puissant qui est l'Ikigai. Alors l'Ikigai c'est quoi? Je suis allée chercher un petit peu des infos. Iki ça veut dire vie ou vivre et Gai ça signifie valeur ou vaut la peine. On peut traduire ça par une vie qui vaut la peine d'être vécue. Sur son site professionnel qui s'appelle Mentalez-vous, on peut lire sa phrase d'accroche « Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action ». Ludovic propose donc des prestations d'accompagnement individuel spécifiques et personnalisées. Il organise des ateliers d'écriture et il a publié un recueil de poèmes. Il a appris à utiliser son cerveau comme on apprend à marcher, aussi à l'aise avec les performances sportives qu'avec la création d'œuvres artistiques. Donc aujourd'hui, on vous propose d'entrer dans son univers et de vous laisser entraîner par la perspective très séduisante du « tout est possible quand t'es aligné ». Bienvenue Ludovic.
Merci pour l'accueil et bonjour à tous. C'est un plaisir de venir participer à Bouge ton bazar. Pour moi, les rendez-vous, il n'y a pas de hasard.
Bienvenue mon cher Ludovic. Merci pour ta présence parmi nous. Je te remercie déjà pour ce petit commentaire d'introduction. Je vais commencer tout simplement par la première question. Ludovic, est-ce que tu pourrais résumer rapidement ton parcours professionnel?
Mon parcours professionnel, il a commencé dans l'animation. L'animation très jeune, j'ai commencé à prendre des délires avec les enfants, à partager, être créatif, inventer des nouveaux jouets et qu'ils soient participatifs aussi. Et mon projet de vie, comme vous avez pu l'aborder, l'Ikigai, dès l'âge de 16 ans, j'étais en Normandie et l'OM a gagné la Coupe d'Europe. Je me suis dit, ah, un signe, une étoile. Et Stella, une étoile pour toi aussi. les petits clins d'œil. Et je me suis dit, dans mon ikigai, je vais aller chercher mon projet. Je voulais être journaliste sportif parce que j'aime ma performance, je vais découvrir tous les sports et vraiment dans l'humain, comment il peut se réaliser dans sa performance et son envie d'agir. J'ai cheminé en tant qu'animateur jeunesse dans les quartiers, en tant qu'éducateur. Et en 2010, l'opportunité s'est présentée de rejoindre Marseille. La bonne étoile était là, avec Notre-Dame de la Garde. Et donc, mon avenir m'a amené ici, à Marseille, pour travailler au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Donc où là, j'ai pu donc rencontrer les jeunes dans la performance, dans leur construction identitaire en tant qu'adolescent. Et multiples questions se posent, pas que sur le terrain sportif, mais dans la vie du quotidien. Mon parcours m'a aussi après permis d'enchaîner par l'expérience dans les quartiers nord de Marseille, en tant qu'éducateur, dans la rue, de voir, d'être en contact avec les jeunes, avec les familles, d'ouvrir les portes, de voir les blessures, de comprendre les choses du quotidien. C'est à ce moment-là que je me suis formé à la préparation mentale, donc pour accompagner les jeunes et les adultes aussi, et cette porte aussi vers l'ikigai, où là, ce projet de journaliste sportif à l'adolescence, je suis en train de le réaliser pleinement en tant qu'entrepreneur dans la préparation mentale et dans l'écriture aussi, avec la gymnopoésie et des ateliers d'écriture et le recueil de poèmes que j'ai publié. Voilà pour résumer un peu mon parcours.
Ben, merci pour ce très bref parcours.
Alors, pour revenir sur le cœur de ta spécialité, l'ikigai, moi, personnellement, je suis d'ores et déjà conquise parce que j'adore les itrema. Mmh. Et surtout parce que je suis convaincue que plus on apprend à se connaître, mieux on apprend à vivre en harmonie. Moi, j'avais expérimenté l'ikigai au cours d'une formation pro pour monter un projet et j'avais été un peu frustrée par l'intervenante. Parce que je trouvais que globalement, ça c'est mon expérience, hein, on ne nous accompagne pas suffisamment dans cet apprentissage. C'est-à-dire, je m'explique, apprendre à se connaître, ça devrait être une matière enseignée à l'école. Moi j'arrive à 40 ans, je me rends compte que la plupart des choses que j'ai apprises venant des professeurs, des experts, ceux que j'appelle les sachants, donc l'école, l'université, les patrons, les médecins, ça me sert qu'à reproduire en fait des comportements que je considère un peu inutiles ou contre-productifs. En revanche, j'ai appris énormément à travers les livres, les sagesses ancestrales, la spiritualité, la vie, et surtout YouTube. YouTube, moi, je trouve ça génial, j'adore. Et c'est comme ça que j'ai découvert des gens comme Idriss Aberkane, par exemple. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller chercher sur YouTube. Et je voudrais revenir sur un concept qu'il aborde justement dans son livre « Libérez votre cerveau » et qu'il approfondit dans sa conférence intitulée « La psychologie de l'optimisme » que j'ai trouvé très intéressant en rapport avec notre émission. C'est le paradigme en psychologie qui est l'idée de l'impuissance induite ou l'impuissance innée. Autrement dit, l'optimisme, ça s'apprend. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je m'explique, en 1967, Martin Seligman démontre que des chiens conditionnés à subir des électrocutions dont ils sont totalement impuissants à les moduler ou les éviter, vont se prostrer et ne tenteront même pas de s'évader si on ouvre leur cage. Voilà, c'est un paradigme qui a été appelé l'impuissance. Helplessness. Et ça a été immédiatement développé, étendu pour contrôler les humains. Bon, ça, c'est le cœur de sa conférence. Et en gros, Idriss Aberkane, il est convaincu que plus on sait comment notre cerveau fonctionne, plus on sera en capacité de transcender les obstacles qui se présentent entre nous et l'accomplissement de nos rêves. Et dernier détail, il donne une information qui me parle beaucoup, c'est que pour apprendre, il faut avoir confiance. En gros, si tu penses que t'es idiot, tu ne feras pas d'effort pour devenir plus intelligent. Alors Ludovic, pour revenir à toi et faire le lien, est-ce que tu veux bien nous dire en quoi ça consiste d'être coach mental Ikigai? Et puis surtout, rassure-nous, dis-nous que t'es pas un énième gourou adepte du développement personnel juste pour séduire les filles. Mmh. Et puis pour finir, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce que je viens de te dire?
Donc, tu ouvres vraiment le champ des possibles. Et c'est vrai que ce livre, pour moi aussi, était une référence. Et dans le développement de la gymnopoésie, je me suis inspiré dessus et je me suis dit, voilà... ce qu'il développe, Idriss Aberkane, comment moi aussi, avec mes atouts, je peux le développer. Et pour revenir à la séduction des femmes ou des filles, j'étais timide quand j'étais jeune et c'était vraiment l'outil de l'écriture que j'utilisais pour entrer en contact avec les filles. Donc maintenant, ça va, j'ai grandi à ce niveau-là. Et mon recueil ne vise pas à un outil de séduction ou de gourou attitude. Et pour revenir à ce cerveau, comment on peut le programmer, comment on peut le déprogrammer. Et dernièrement, je me suis investi aussi dans une formation de neurosciences qui moi aussi m'a permis de construire et déconstruire les choses qu'il y a en moi Et comme coach aussi, bah, c'est important d'être supervisé, d'être accompagné, parce qu'on a des bagages, et dans les bagages, qu'est-ce qu'on y met ? Est-ce qu'on y met tout ce qui est bad, d'accord ? Alors que moi, le bad, je le décompose en B de beautiful, action different, et chacun de nous est différent. Et quand tu parles aussi de l'apprentissage à l'école, bah, y a l'école, la vie à l'école, et l'école de la vie. Et pour nous, c'est chaque jour, on peut apprendre dans nos rencontres, comme on est en train de le vivre aujourd'hui, ce matin, ensemble. Et les outils, c'est vrai que par l'écriture, moi, je parle de mon exemple. Chaque matin, je me lève, je prends le temps d'écrire mon inspiration du matin, mais aussi des moments de gratitude, des choses que j'ai pu vivre. Et comme là, je vis ce matin, et derrière vous, avec le micro, le casque, il y a des échanges qui se croisent, il y a des étoiles dans les yeux. C'est ça, le partage. Et de se dire, on est capable de faire beaucoup de choses. Et quand je parle avec les jeunes, quand j'étais en Normandie, j'étais timide, tout ça, et j'ai traversé la France, j'ai fait une diagonale pour accéder à ce qui me fait vibrer, moi, je vous invite à faire au quotidien ce qui vous fait vibrer. Et par l'ikigai, on passe par cette étape-là.
Justement, là, tu parlais de l'ikigai. On n'a pas vraiment défini ce que c'est. Bon, il y a plein d'infos à récupérer. En gros, c'est des questions clés qui nous permettent d'identifier dans quoi, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour vibrer au quotidien, ça.
C'est ça, pour rebondir à ta question. C'est vrai que à l'école, on est vraiment sur des schémas un peu français, maths, etc., rentrer dans la norme, alors qu'on sait faire plein de choses aujourd'hui. Et nous aussi, dans notre enfance, on sait faire plein de choses. Dernièrement, j'accompagnais un adolescent. Cet adolescent, on prenait le temps. Je lui dis, qu'est-ce que tu aimais bien faire quand tu étais petit ? Il me dit, j'aimais bien être dehors, bricoler, construire des choses, etc. Est-ce que ça fait encore sens chez toi aujourd'hui ? Et il me dit, ouais, j'ai envie de découvrir ce type de métier. Et bien, c'est pour ça qu'on est parti creuser par rapport aux différentes bulles qu'il peut y avoir, ce qu'on aime faire dans la vie. D'accord ? Et certaines personnes, elles aiment bien parler au micro. D'autres aiment bien faire des selfies, faire des photos. D'autres, c'est pianoter ou toucher les boutons, faire monter les décibels. Et pourquoi chez nous, il y a une passion ? Et quand on voit la passion qu'on pouvait avoir quand on était petit, des choses qui nous animaient, comme pour certains, jouer avec des Playmobil. Quand on voit que notre conscience, c'est la taille d'un Playmobil, et que notre subconscient, c'est la taille d'une tour Eiffel, je vous invite à monter l'échelle. Et donc après, le troisième cercle, c'est vraiment ce dont la société a besoin. Et des moments comme nous, on est en train de vivre, partager la parole, ouvrir des portes et parler avec le cœur. Et dernièrement, ce qui nous fait vibrer le matin quand on se lève, dire « Ouais, je vais me lever, je vais aller jobber pour ça, je vais gagner ma vie et je vais pouvoir faire vivre ma destinée avec tout ce qui est vraiment à construire derrière. »
Justement, je voudrais rebondir sur cette perspective. C'est-à-dire que moi, je trouve ça génial, l'ikigai, tout ce que ça ouvre, toute la façon dont tu parles déjà, tu maîtrises, ça fait rêver. Mais on parle de la vraie vie, et c'est vrai que ce serait trop beau si ça pouvait être aussi simple. Je voudrais parler d'une notion qui revient et que tu dois avoir, que tu dois travailler régulièrement, c'est l'auto-sabotage. Et ça fait le lien avec notre émission. Alors, la définition de l'auto-sabotage, j'ai trouvé une définition qui était intéressante, qui dit, c'est quand vous vous retrouvez à faire quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt ou qui est carrément malsain pour vous et que vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire quand même. Et il se peut même que vous ne vous rendiez même pas compte que vous le faites. T'es d'accord avec ça ?
Oui, ça me parle totalement. Et des exemples que je peux vous donner, c'est le langage qu'on peut employer au quotidien. Et quand on se regarde dans la glace ou quand on fait quelque chose, on dit « Ah non, ça vaut pas la peine. Ah, je suis nul, encore une fois, je vais manquer. » Alors que si on prend des mots à la base, on parle du mot « je vais jamais y arriver », alors que si on change, on switch en disant « je vais le faire maintenant », et en le faisant, peut-être qu'on va passer par des expériences, on va se manquer, mais derrière, on va pouvoir avancer, dire, oui, je l'ai fait maintenant, j'ai appris quelque chose sur moi, et je me suis lancé un défi, et je vais pouvoir le construire. Et c'est comme quand on dit, j'essaie de faire ça. Dans le mot j'essaie, il y a une part de doute. Alors que si on dit, je le fais, on y va. Et un livre que j'ai pu lire dernièrement, qui s'appelle La règle des 5 secondes, de Mel Robbins, je vous invite à le découvrir. Franchement, si on se met dans notre cerveau à dire 5, 4, 3, 2, 1, go, le cerveau, il n'a pas le temps de programmer les doutes, les peurs, tout ça. C'est le petit partage du matin aussi qui va bien.
Trop. trop bien, parce que du coup, c'était la question. C'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se cherche, qui se pose des questions, qui se sent complexé ou sous l'emprise d'émotions négatives comme la honte, la culpabilité? En gros, comment on fait pour apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer? 5 secondes.
La règle des 5 secondes, elle est forte, elle est puissante. Wow. Je vous invite à faire d'abord sur des choses qui ont beaucoup moins d'enjeux. Dernièrement, j'ai un vidéaste qui me sollicite, il me dit « Ouais, mais j'ai testé, j'arrive pas. » Pars sur des choses, des fondations simples. Voilà, t'as besoin de parler à telle personne, tu te sens pas, bah, envoie-lui un texto ou laisse-lui un vocal sur WhatsApp, et la communication va s'engager. Le premier pas, comme dans l'Ikigai, mode Kaizen, pas à pas, petit pas. Petite dédicace à Nockstag, avec le film aussi. Aller chercher des choses qui sont pas dans notre zone de confort. C'est bien d'être derrière le micro, derrière l'écran, mais quand il faut monter tout là-haut, au sommet, il y a des vérités qui tombent. Et le travail sur soi, comme tu l'as pu l'indiquer.
Ouais. Mais d'ailleurs, ça me rappelle une phrase, je ne sais plus qui avait dit ça, tout grand voyage commence par un pas, premier pas.
Mmh. Lao Tzu.
Lao Tzu. Ah bah en plus, je l'adore. Trop bien.
Bah écoute, Ludovic, déjà merci pour ce partage. Moi j'ai l'impression d'écouter un slammer depuis tout à l'heure et ça me fait beaucoup de bien. Je prends aussi beaucoup de leçons, mais dans le sens positif du mot leçon. Parce que le matin, c'est vrai que moi je commence par les écrans pour m'occuper le cerveau ou me réveiller, soi-disant, mais c'est pas bon du tout. Donc je retiens la petite astuce du matin. Alors, l'auto-sabotage, bon, moi personnellement je connais pas, j'ai une estime de moi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Du coup, pour revenir à l'auto-sabotage, j'aimerais te demander quel est le principal frein ou blocage que tu rencontres chez les personnes que tu accompagnes en général.
Le principal frein, c'est que la préparation mentale, l'ikigai, sont des domaines qui sont peu connus ou qui sont connus dans d'autres pays que la France. Et je prends l'exemple d'un athlète que j'ai pu contacter, que j'accompagne actuellement, qui m'a dit Ludo, si tu m'avais contacté il y a un an, j'aurais dit non merci, j'ai pas besoin d'un psychologue, j'ai pas besoin d'être allongé pour parler, etc. Et moi, je vis mes séances, mais dans le ludique, comme on est en train de parler, j'ai plein d'outils à proposer, mais dans le délire, on part dans des délires, et les portes, elles s'ouvrent.
Ben, moi, j'apprécie cette manière ludique, parce qu'en effet, il y a la thérapie, quand on en a besoin, c'est un soin. Mais cette approche que tu as, qui est totalement hors originale, puisqu'elle n'est pas dans les normes, en tout cas dans les choses connues, est une approche complémentaire qui fait vraiment, je le répète, beaucoup de bien. Du coup, j'aurais à te demander, est-ce que les gens sont conscients de leur blocage et comment tu réussis à mettre en lumière le ou les blocages?
Alors là, je vais être honnête avec toi, mais moi aussi, il y a des blocages sur lesquels je n'étais pas conscient. Et le fait de me faire accompagner, j'avais mis le doigt dedans. Et là, je prends une bonne claque et on ouvre les portes. Et bien là, l'estime de soi, l'humilité, on se dit, ben oui, l'ego, on a besoin. Et l'ego, il nous met des bonnes claques aussi, lui. C'est un petit malin. Et donc, tout simplement, ben, au début, les choses, ben, on reste vraiment, on survole. On va pas en profondeur. Et puis, au bout d'une demi-heure, hop, je vois le petit sourire. Je sens que ça switch. Et là, c'est fluide. Les choses, et comme là, on a pu le vivre, ma question était anticipée. Moi, quand je suis en coaching, mais les choses, elles sont naturelles. Je peux préparer une séance. Les portes, elles s'ouvrent naturellement, c'est téléguidé, boum, on prend l'autoroute, on va prendre telle sortie et on va se poser la sortie et là on va poser les choses sur la table. Et c'est pour ça que souvent on est dans le regard en pratique, dans le regard en lui-même. Et moi, ce que je propose sur ma première séance, c'est on pose la main sur la feuille et on vient dessiner notre main, tous les contours comme on le faisait à l'école. Et après je pose des questions pour chaque doigt et j'articule les choses.
Mais c'est... Franchement, c'est une façon vraiment super ludique. Et même avec toute la bienveillance qu'on peut y mettre à vouloir chercher ses blocages, des fois, on est quand même dans le déni. Et la preuve, toi qui es un super coach, et bah, tu as quand même dû attaquer cette phase de faire face à tes blocages, même ceux que tu ne t'imaginais pas. Et du coup, moi, je te demanderais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est bloqué dans sa vie alors qu'il sent qu'il a un potentiel? Je ne parle pas de moi, bien évidemment. Hein.
Qu'est-ce que je lui dirais? Je dis, où tu as envie d'être en ce moment? Est-ce que tu as vraiment un lieu que tu chéris pour jouer, être dans le jeu J.E.U. pour ton jeu? Et on va prendre un moment, on va se poser, comme là on parle autour de la table, et la discussion va être propre, et puis à un moment donné, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et puis après, si la personne elle veut y accéder, bah moi je suis vraiment dans la libre adhésion. Je suis pas là pour forcer et dire, bah non, je vais t'accompagner, je suis la personne qu'il te faut. Pour moi, c'est, comme on disait tout à l'heure, bouge ton bazar, Le rendez-vous, il n'y a pas de hasard.
En effet, je confirme, tu n'es pas un gourou du développement personnel. Tu es vraiment un personnage atypique qui a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui, à nous directement et à tous ceux qui nous écoutent. Bénédicte, je oui. te laisse reprendre.
Alors moi, je me suis intéressée justement à ce que c'est l'autosabotage et un petit peu à comprendre d'où ça vient. Pour résumer, replacer un petit peu le contexte, donc l'autosabotage, ça peut être penser qu'on est incapable, qu'on ne mérite pas, être incapable d'apprécier qui on est, ce qu'on a, projeter une vision déformée de sa vie, de son corps, ça c'est la dysmorphophobie. On peut aussi s'empêcher de faire, se brider, s'autocensurer. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et alors je me suis intéressée aux causes. J'ai identifié quelques origines, notamment la peur de l'échec, la peur de la réussite, la faible estime de soi, l'environnement toxique. Quand on est habitué au mauvais traitement, c'est la zone d'inconfort quelque part. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Quand on est habitué au mauvais traitement, quand on a des croyances limitantes, quand on a des obstacles systémiques, ce qui m'amène, donc les obstacles systémiques, c'est le racisme, le sexisme, ce qui m'amène à vous parler d'un ouvrage que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle « Résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister ». C'est un essai écrit par Mona Chollet. Alors, Mona Chollet, je vous invite à aller chercher les infos sur cette journaliste essayiste franco-suisse. Et elle est surtout connue pour son ouvrage qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », paru en 2018, dans lequel elle développe l'idée que la chasse aux sorcières des 16e et 17e siècles sont un phénomène de misogynie qui se développe à la suite de la querelle des femmes. Bon, c'est un autre sujet. Mais je la trouve très intéressante parce qu'en fait, elle parle justement de cette voix que moi, je rapproche aujourd'hui dans notre émission de l'autosabotage. Oui. Cette voix qui n'en finit pas de nous descendre. Et je vous lis un petit extrait de comment elle aborde son nouveau livre. Par ailleurs, ce que j'appelle l'ennemi intérieur est un ennemi intériorisé. Il n'est que le résultat de la longue sédimentation en nous d'un ennemi extérieur. Cela explique pourquoi les catégories de population dominées, sur lesquelles circulent beaucoup de stéréotypes négatifs, à savoir les enfants, les femmes, les minorités sexuelles ou raciales, sont particulièrement vulnérables à ce mécanisme. Parler du sentiment de culpabilité revient à parler de la culpabilisation et du gain qu'en espèrent celles et ceux qui la pratiquent. Dans le procès de Franz Kafka, le premier effet de la mise en accusation du protagoniste, Joseph K., c'est que les gardes chiourmes, venus lui signifier son arrestation un matin au saut du lit, dévorent à sa place le petit déjeuner préparé par sa logeuse. Quand il ose demander ce qui lui est reproché, l'un des deux sbires lui lance sévèrement « Voilà que vous recommencez !» tout en trempant sa tartine dans le pot de miel. Il y en a beaucoup des tartines qui ne sont pas mangées par celles et ceux à qui elles devraient revenir. Pour tenir en respect la voix de la haine de soi, Elisabeth Gilbert a élaboré une stratégie. Chaque jour, depuis 25 ans, elle s'écrit une lettre adressée à elle-même de la part de l'amour. Cher amour. Donc chaque jour, elle commence par poser la question rituelle. Cher amour, que voudrais-tu me faire savoir aujourd'hui? Et l'amour lui répond. Il ne joue jamais le rôle d'un coach qui, tel un entraîneur de boxe au bord du ring, la bombarderait d'assertions convenues du genre « t'es la meilleure, tu peux le faire, tu vas réussir », etc. Non, il lui dit simplement que quoi qu'il arrive, il sera toujours à ses côtés, qu'il ne l'abandonnera jamais. Il lui assure que quoi qu'elle puisse faire, elle ne le perdra jamais. Il lui réaffirme sa valeur inconditionnelle. Il lui répète combien elle est précieuse sans qu'elle ait rien à faire pour cela. Fin de citation. Intéressant.
Magnifique, magnifique. Là, tu m'as inspiré, tu m'as emmené dans notre dimension. Et c'est vrai que j'ai envie de retenir ces mots-là, comme venir nourrir avec cet auto-sabotage. Donc, il y a nourrir, mourir, pourrir, courir et sourire. Et quand on sourit à la vie, elle nous sourit. Et j'ai bien aussi cette nuance du coach qui est là pour dire t'es la meilleure, etc. Moi, dans ma posture, je suis vraiment là pour offrir des clés. Et après, la personne de cheminer avec ces clés-là. C'est clé là pour faire des cadenas qui peuvent être sur l'amour, la vie privée, la vie perso, la vie professionnelle, la vie en tant que parent. Il y a tellement de clés à ouvrir au quotidien. Avec cette charge mentale qui peut peser. Et comment s'en libérer pour dire ce moment-là, c'est pas ma priorité. La priorité, elle est moi-même. Et comment je m'aime, avec le chemin que je mène, avec les graines que je parsème.
Papa.
Ça s'appelle tirer des balles à blanc.
Alors, on enchaîne sur la troisième partie de cette émission. Je voulais faire un petit focus sur, tu as parlé un petit peu de ça au départ, les neurosciences, la PNL, enfin tout ce qui est en lien avec le cerveau et ce qu'on peut en faire et ce qu'on découvre. Hein. C'est nouveau en fait, les neurosciences. Et alors moi, je connaissais déjà, mais on va partager cette info, c'est Joe Dispenza. Joe Dispenza, moi, là par contre je prends le temps de vous expliquer qui c'est parce que le gars il est incroyable. Donc Joe Dispenza, il est né aux États-Unis le 22 mars 1962. Il est auteur de livres axés sur le développement personnel. Il est également docteur en chiropratique, conférencier international, chercheur et consultant. Alors son histoire. À 23 ans, il participe à un triathlon à Palm Springs et se fait percuter alors qu'il est en vélo par l'un des véhicules qui encadrent l'événement. Il se fait traîner sur des dizaines de mètres avant l'arrêt du véhicule. À l'hôpital, on lui annonce qu'il a 6 vertèbres cassées et que sans chirurgie, la paralysie est inévitable. Pourtant, Joe Dispenza refuse l'opération et se convainc qu'il peut guérir seul. Le chercheur prend alors 3 décisions pour atteindre cette guérison aussi incroyable qu'improbable. Il décide de focaliser son attention sur l'intelligence qu'il possède et visionne le résultat final. Il autorise cette intelligence à réaliser cette guérison. Enfin, il bloque les pensées lui faisant obstacle. Donc au cours des 2 mois et demi suivants, 2 heures par jour, il se consacre mentalement à la reconstruction de sa colonne vertébrale. Au bout de 9 semaines, il parvient à se lever et 12 semaines plus tard, il se remet à la muscu. Voilà, voilà. À côté, faire bouger une petite cuillère, comme dans le film de Matrix, c'est un peu ridicule, quoi, je vais te dire. Donc la question, c'est comment toi, tu as découvert les neurosciences et comment tu t'es formé?
Alors comment j'ai découvert les neurosciences, parce que comme je suis quelqu'un de très curieux qui aime bien me nourrir et de découvrir, et sur mon chemin j'ai pu rencontrer Tiffany Murat, donc un coach qui m'a accompagné, qui lui a été à l'école de Joe Dispenza aux États-Unis, donc il est arrivé avec pléthore de choses à me proposer, et donc là on a pu cheminer ensemble sur ma neurostory, tous les blocages qu'il y a pu avoir, mes constructions limitantes, pour les transformer en croyances boostantes, donc c'est plein de choses qui me tentent. Et que j'arpente au quotidien. Et avec Tiffen, on a une lecture du cerveau qui... C'est impressionnant, impressionnant. Et quand on parle de l'histoire de Joe Dispenza, moi-même aussi, avant j'avais une crainte de l'eau, j'avais une phobie de l'eau. Et la première fois que je suis venu à Marseille, je partais dans les calanques avec mes collègues, je me suis jeté, je me dis, je célèbre les choses. Ah oui, je nageais comme un petit chien. Et en 2015, je me suis fait opérer de la jambe. Je me suis dit, ok, je profite de ma convalescence, j'ai appris à nager, et maintenant j'ai fait des triathlons. Et dans le même style, avec un ami, on s'est pris au défi de traverser toute la côte atlantique à vélo, de Nantes jusqu'à Dax. Et à 20 km de l'arrivée, boum, une voiture nous a shooté. Donc à l'heure actuelle, merci la vie, je suis encore ici en vie, parce que le monsieur roule encore à 30 km/h. Mais depuis, j'ai rebondi, puis je croque la vie chaque jour. Est-ce que je stimule mon cerveau dans ce que la vie en vaut? Et après, pour les neurosciences, il y a tellement d'outils. C'est une programmation, comme on parlait souvent du téléphone. Il y a tellement d'applications dessus. On ne les utilise même plus, mais on va dessus pour regarder ce qui s'y passe. Alors que si on amène à les supprimer, à les désinstaller, on purifie notre cerveau et on avance sur beaucoup des choses qui sont beaucoup plus fluides. Et vraiment pour créer des nouveaux schémas qui passent par la neuroplasticité. Mmh. Voilà, neuroplasticité, vraiment, c'est éveiller à des nouveaux circuits, comme on prend un chemin. Et finalement, qui n'est pas marqué, fur à mesure de répéter, on répète, et ce chemin-là devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus élargi pour avoir un chemin dans ce sens-là. Et c'est ce que moi j'aspire à faire au quotidien, pour moi personnellement, et puis dans la rencontre dès le plus jeune âge aussi avec les adolescents avec qui je peux collaborer alors qu'ils sont dans des situations d'échec scolaire. Et leur cerveau peut être ruiné dans ce sens-là, alors qu'il y a un tel potentiel.
Ouais. Je me permets juste de rebondir là-dessus. En fait, ça me rappelle un peu ce qu'on avait dit sur la première émission, la neuroplasticité sur l'autoroute. Tu sais, les autoroutes et la fameuse machine à café où on bug. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée-là. Et je précise aussi que donc, Joe Dispenza a notamment écrit un livre qui s'appelle « Rompre avec soi-même ». Et j'aime bien cette idée de se dire « Ok, jusqu'à maintenant, j'avais ce comportement-là ». Donc peut-être fumer, peut-être avoir peur de se baigner, peut-être même avoir peur de discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et il dit globalement, hein, je caricature, en gros, c'est pas parce que j'ai eu ce comportement-là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que je peux pas changer, que je peux pas être autre chose. Donc en fait, c'est vraiment rompre avec soi-même, c'est rompre avec celle qu'on était, c'est la personne qu'on était hier, et s'autoriser déjà cette perspective-là. En fait, moi, je sais pas, à chaque fois que je me dis « Ah, mais en fait, je suis peut-être pas obligée de continuer à faire de la merde. Ce que je considère comme de la merde, hein, c'est pas un jugement négatif, je fais attention à ça. Mais c'est l'idée vraiment de se dire « Ah, bah peut-être que demain, je peux faire mieux. » Ou autrement. Ou quelque chose qui me correspond.
Bah souvent, la question que j'ai envie de poser, c'est de dire bah, « Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ?»
Ah, j'adore.
Et tu dis « Ah ouais, bah ouais, tel endroit, j'ai pas été visité. » J'y vais, go. Ou telle personne que j'ai envie de bah, lire le bouquin, là tu m'amènes quelque chose sur la table, j'ai envie de découvrir. Allons-y, découvrons les choses pour la première fois et élargissons notre zone de confort. Il y a tellement de belles choses à vivre.
Désolée. Bah merci, moi j'ai des étoiles plein les yeux, là je vous écoutais comme une enfant. C'est tellement super inspirant. En particulier aujourd'hui pour moi, donc je retiens plein de petites notes et plein de petites leçons, on en parlera après. Moi je vais revenir à toi Ludovic, et moi je pense qu'on peut dire que t'es sorti de la matrice. Du coup je voulais te demander comment tu vis ton nouveau statut, et je voulais aussi te demander quel serait le conseil à donner pour les gens qui sont inspirés par ton parcours et qui voudraient être indépendants.
Bah, ton mot il est fort, tu parles de la matrice, d'une vision amatrice. Maintenant, je suis devenu professionnel et non vraiment délivré de tout ce qui est dans vos potentiels. Et pour nous, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières quand on se dit bah, impossible. On ferme les barrières, alors que si on dit que l'un est l'apostrophe UN possible, nous-mêmes, on est possible de faire des belles choses. Et comme vous m'avez invité aujourd'hui, bah, c'est pour le découvrir et se découvrir. Et moi, dans le partage des compétences, parce que quand on voit qu'on est entrepreneur, des choses qui sont complexes, on se peut sentir en solo, alors que si on y va ensemble, on va plus loin. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. On est vraiment là tous uniques pour partager et se dire, t'as telle valeur, et ben, prenons de la hauteur pour notre chemin, être auteur.
Waouh.
Mais en fait, c'est naturel que tu parles comme ça, en fait, c'est, tu es poète de naissance.
De naissance, c'est dans mes gènes. Et maintenant, je me gêne plus. Alors qu'avant, j'ai gardé ça dans mon coffre-fort. Et maintenant, je fais même plus un effort, c'est intuitif. Ouais.
Ah, c'est ouf.
Bon, aujourd'hui, on a eu le droit à un échange tout en rime et tout en strophe et tout en vers. Et franchement, c'est magnifique. Ça prouve que tu es sorti de la matrice, du coup. Parce que c'est pas une façon classique de s'exprimer, mais qui est très belle et qui, franchement, qui aujourd'hui m'a apporté beaucoup de lumière. Je suis venue avec de la grisaille dans ma tête et là, mon brouillard intérieur s'en est allé.
Waouh.
Bah déjà merci, franchement merci, parce que bah déjà c'était un honneur de te recevoir, mais de partager cet instant et tous ces apprentissages, toutes ces paroles constructives, ça a été vraiment quelque chose, bah, voilà, dont moi-même je le dis, ça a mis de la lumière en moi, comme quoi même moi-même je suis là pour déblayer mon brouillard intérieur. Bah, du coup, pour conclure, parce que malheureusement, il faut mettre une fin à tout, même si on resterait ensemble bien des heures à discuter de cette manière. On a évoqué au cours de cet épisode de nombreux concepts comme l'ikigai, l'impuissance innée, l'autosabotage et plein d'autres choses encore très intéressantes. On a également parlé de Idriss Saberkan, Mona Chollet dont on a eu un extrait et de Joe Dispenza dont on a eu un très bel exemple de reconstruction de neuroplasticité. Alors rassurez-vous, vous trouverez l'ensemble des références sur le site web de Fréquence Mistral ainsi que sur nos réseaux. Hein. On a dit plein de bonnes choses. Ludovic, tu voudras le lire, donc tu retrouveras toutes les bonnes références indiquées, comme je l'ai dit, sur les réseaux et sur Fréquence Mistral. Et on indiquera également le lien vers ton site, Ludovic, et vers tes réseaux, parce que c'est quand même la moindre des choses, pour tous ceux qui sont intéressés par soit par un coaching de ta part, soit par suivre ton parcours. Ils pourront entrer en contact directement avec toi. On indique, pour conclure cette émission, 1, 2, 3, pour conclure cette émission, j'emprunte une citation de Christophe Colomb qui dit On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Je répète, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Ludovic, je te laisse ajouter un mot, monsieur le poète.
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est le mot de la fin pour vous dire que chaque jour, ayez faim de vous réaliser et de votre potentiel optimisé dans la subtilité, en toute créativité. Merci beaucoup, en tout cas, c'est un plaisir.
Merci.
Ben, merci beaucoup Ludovic d'être venu, ça s'est fait de manière très fluide, c'était un vrai plaisir, toutes les interactions, les échanges, voilà, comme tu l'as dit, il n'y a pas de hasard, quand c'est prêt, c'est prêt. Est-ce que tu as une info quand même à nous donner sur, je sais pas, ton actu du moment, un truc important qui arrive
Le gros truc de la rentrée 2025, c'est mon concept de gymno-poète. Donc c'est vraiment les séances que je propose avec une déclinaison pour chaque lettre, parce que dans chaque lettre, il y a vraiment le G de gagnant, le Y du yin et du yang, le M de la matrice, le N de nouveauté, le O de ouverture. Il y a plein de choses à travers des lettres qu'on va pouvoir, je vous propose de cheminer ensemble avec une manière très ludique, très sympathique, dans l'humilité, dans l'empathie et la bienveillance et le respect de chacun.
Ludovic, pour répondre à une publication qui était un teaser sur quel est notre invité du deuxième podcast, j'avais fait diffuser une petite image où il y avait trois objets qui étaient censés donner des indices sur quel était notre invité. Alors, est-ce que, en réponse à nos auditeurs et à nos followers, tu peux nous expliquer quels sont les trois objets que tu as choisis et pourquoi ?
Alors, le premier objet que j'ai choisi, c'est la casquette, parce qu'ici à Marseille, il y a le soleil. J'ai réalisé des choses avec merveille. Et pour moi, j'ai une casquette, mais j'ai différentes casquettes, comme on a pu le voir sur cette interview. Franchement, entre la préparation, les kigai, les neurosciences, il y a plein de choses que j'ai pu en mesure de délivrer. Mon deuxième objet, qui est écrire pour décrire et livre des livres, c'est un recueil de poèmes que j'ai publié dernièrement et qui synthétise les poèmes que je publie tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a des petits mots sympas qui permettent d'avancer, de cheminer. Et le dernier, le maillot de l'OM, cadeau du staff avant mon départ de l'OM, où là, c'est un travail vraiment que j'ai pu réaliser avec tout le monde, avec tous les jeunes, avec tous les docs, les kinés, les éducateurs, les entraîneurs, tout ça au quotidien. Et cette expérience, j'ai pu la vivre en accompagnant à la finale Gambardella au mois de juin à Lille pour une belle victoire qui n'avait pas été réalisée depuis 45 ans. Donc, kiffez votre vie.
Merci pour tous ces petits clins d'œil et puis pour la réponse que tu auras donnée. Comme ça, ils comprendront l'intérêt de ces objets, en tout, si je peux dire objets, que tu as portés avec toi. Alors, malheureusement, si je puis dire, l'émission touche aujourd'hui à sa fin. Donc, je vais déjà vous rappeler de nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc déjà, notre Instagram, bouge-ton-bazar. Également sur TikTok, bouge-ton-bazar sans aucun intermédiaire. Et également sur YouTube, bouge-ton-bazar, pareil, sans trait d'union. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui nous permettent d'être là aujourd'hui, de produire cette émission. Donc, bien évidemment, Bénédicte, mon acolyte, Miss Benny, mais aussi Ludovic, notre invité. Un, deux, trois. Et surtout, Fréquence Mistral, dont Aurélien ici présent, parce que sans vous, on ne serait pas là. On ne serait pas en train d'enregistrer, on ne serait pas en train de pouvoir diffuser. Donc, un grand merci à Fréquence Mistral. Je remercie également la Maison Hubert pour le cadeau à notre invité. Un grand merci à leur participation dans la créativité. Et on en fera plein d'autres pour les prochains invités. Donc, avis à ceux qui veulent avoir leur petit cadeau. Remerciements également à la Cinéfabrique pour le matériel audiovisuel nécessaire à la diffusion sur nos réseaux qui nous a gentiment été prêté. Et donc, un grand merci pour cela. Et puis, merci surtout à nos auditeurs, parce que si on fait tout ça et qu'on n'est pas écouté, c'est cool pour nous, mais bon, c'est encore mieux qu'on puisse apporter de la lumière et déblayer le bazar intérieur de plein de gens qui écouteront et diffuseront autour d'eux. Donc, n'hésitez pas à diffuser autour de vous pour aider toutes les petites porcelaines que vous connaissez à se réparer. À très bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup, belle journée.